Monsieur Truchon, nous entamons ce soir la 7e béatitude, la béatitude des artisans de paix. Comme d'habitude, nous allons commencer par définir les termes, mais d'abord, si vous le voulez bien, j'aimerais vous demander pourquoi cette béatitude semble un petit peu à l'écart des autres dans sa structure, sa formulation, elle me paraît plus complexe. Il y a d'abord les artisans de paix, puis évidemment le deuxième terme, les fils de Dieu, mais il y a aussi une précision additionnelle. Ceux-là ne seront pas précisément fils de Dieu, ils seront appelés fils de Dieu. Alors, pour ma part, en tout cas, je vois trois composantes, au lieu de deux dans les autres jusqu'à maintenant.
Bon, c'est vrai, c'est, cette question-là va nous aider d'ailleurs à percevoir ce deuxième bloc de la béatitude, fils de Dieu. Peut-être qu'on peut commencer par là aussi, mais ensuite nous verrons quand même des phrases encore qui expliquent une donnée générale. Et ensuite, le fonctionnement, l'expérience, le profil de l'artisan de paix, les fruits. Et aussi, la caractéristique peut-être particulière pour notre temps de cette béatitude. Alors, artisan de paix, ils seront appelés fils de Dieu. On peut commencer par fils de Dieu, ça va peut-être aller plus vite et clarifier des choses déjà. C'est évident que fils de Dieu, on peut mettre un grand F. Si nous mettons un grand F, c'est le Fils de Dieu, il n'y a qu'un Fils de Dieu, c'est Jésus, le Fils du Père. Alors évidemment, il s'agit de ça si nous pensons au Christ lui-même, qui est toujours la source et le résultat des béatitudes, d'abord en lui-même et ensuite pour chacun de nous. Mais si nous pensons à nous, nous ne pouvons pas, là, comme tel, nous mettre Fils de Dieu avec un grand F, au moins pas dans le sens de Fils unique. Mais comme participant à sa filiation divine, par grâce, c'est évident que là, nous pouvons. Mais nous disons ça habituellement par la formule plutôt de fils adoptif, donc des fils adoptés, c'est-à-dire fils par Jésus, puisque le Père n'a qu'un fils, mais en lui, nous sommes vraiment ses fils. Donc, fils de Dieu avec un petit F dans le sens de fils adoptif. Si nous allons dans l'Ancien Testament, là, nous faudra peut-être prendre plutôt le terme serviteur de Dieu, ou encore Christ, qui veut dire envoyé de Dieu, oint de Dieu, parce que Abraham, Moïse, c'était tous des fils de Dieu, dans le sens des serviteurs de Dieu, c'était tous des Christ, mais là encore, il n'y a qu'un Christ, le Christ, et c'est celui du Nouveau Testament, le Fils de Dieu, le Fils unique du Père. Maintenant, la symbolique qui est en dessous de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils seront appelés fils de Dieu? Est-ce qu'ils le seront? Ben oui, ils le seront au sens où nous venons de le dire, de fils adoptif et de serviteur. Mais ils seront appelés, c'est-à-dire qu'ils feront faire référence à Dieu parce que leur action sera tellement vue comme extraordinaire, comme bénéfique, qu'elle nous apparaîtra comme divine et comme une résultante de l'action de Dieu lui-même. Alors, au fond, c'est pour dire qu'il y a une référence à Dieu qui sera faite par des gens, grâce à ces personnes, qui seront libérateurs d'une façon particulière et plutôt explicite, ou encore artisans de développement. Alors, c'est pour ça que maintenant, nous allons parler du mot « paix ».
Mais attendez-moi un tout petit instant. Quand on dit « ils seront appelés », ils seront appelés « fils de Dieu » par qui?
Par les gens, d'abord, qui en bénéficieront directement, et par ceux et ensuite qui les découvriront, et finalement surtout au sens eschatologique, c'est-à-dire à la fin des temps, ils seront vus vraiment comme serviteurs.
Bon, j'allais le dire, mais également sur cette terre, durant cette vie.
C'est ça, justement, sur cette terre aussi, même si le Verbe est au futur, il y a une action déjà de la Trinité elle-même et de toute son action dans les missions divines que les serviteurs de Dieu ou que les envoyés de Dieu ou que finalement chaque homme exerce dans le monde, pour lui-même et pour d'autres, de par la grâce qui lui a été dévolue par Dieu, ou si vous voulez, son charisme, sa vocation particulière. Alors, on peut repenser encore au Dalai Lama, on peut penser au Christ, on peut penser à Moïse, on peut penser aux missionnaires, on peut penser aux catéchètes, aux pasteurs, aux évêques, aux apôtres, à tous les chrétiens.
D'accord. Est-ce qu'on peut passer à la notion de paix? Oui. J'aimerais savoir la différence entre la paix de l'Ancien Testament et la paix du Christ, celle du Nouveau.
Oui. Avant, peut-être le mot artisan, ça va être encore plus simple. Le mot artisan veut dire ouvrier. Donc, ce n'est pas d'abord... La béatitude ne vise pas d'abord ceux qui jouissent de la paix. La béatitude ne consiste pas d'abord à jouir de la paix, mais à y travailler. Évidemment, celui qui y travaille doit bien en avoir un petit peu. Mais c'est quand même, la béatitude est centrée sur le travail pour la paix. Alors, c'est un engagement, un travail, les ouvriers de la paix, les artisans, les faiseurs de paix, ceux qui fabriquent la paix. Maintenant, là, nous arrivons au mot clé de la béatitude, c'est la paix.
C'est la paix. Alors donc, quelle différence est-ce qu'il y a entre la paix de l'Ancien Testament, la paix du Christ et celle du Nouveau Testament? D'après l'analyse que vous en faites, le sens est bien différent, je pense, selon les époques, aussi les cultures hébraïques, arabes,
oui,
et ainsi de suite.
Oui, d'abord, si nous passons par le français, commençant par notre langue, pour en reculer ensuite jusqu'à la langue des origines, d'abord, le mot « paix » pour nous veut presque dire l'absence de guerre, c'est-à-dire qu'on est en paix, il n'y a pas de guerre. Bon, c'est déjà quelque chose d'important que de ne pas être en état de guerre, même si des fois c'est la guerre froide, mais en tout cas. Alors, en latin, qui est en fait, le mot français est une translittération quasiment du mot « lapin », du mot latin veut dire « paix »,« pacem »,« pax », c'est encore là quand même la résultante d'avoir résolu une guerre. Ou si vous voulez, encore un mot latin, le salut. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mot paix est souvent une façon de saluer. Par exemple, en latin, c'est salver. En français, dans le québécois, on dit salut. Salut, comment ça va?
Oui.
Bon, en latin, on a salvé, ça veut dire encore salut. Donc, est-ce que tu es en train de t'en sortir? As-tu réglé le problème de paix ou de guerre? En grec, ça fait allusion surtout à la santé. Et chez Saint-Augustin, pour clarifier un peu tout ça, c'est la tranquillité dans l'ordre. Donc, quand chaque chose est dans son ordre, à sa place, ben c'est sûr que c'est une forme de paix. Mais là, nous n'entrons pas assez encore dans le fond ou le vif de la béatitude. Et là, il faut aller à l'hébreu. Et en hébreu, paix se dit shalom. Et shalom, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire paix, oui, ça veut dire qu'on se salue, mais ça veut dire quoi? Alors, c'est là que nous pénétrons un peu sur le sens de la béatitude, et même que nous allons aborder son fonctionnement. Alors, deux Juifs se saluent, et ils disent, alors là, nous sommes dans la paix selon l'Ancien Testament, deux Juifs se saluent, ils se disent « shalom ». Bon, ils s'embrassent, ils se prennent dans les bras l'un de l'autre, la tête d'un bord, la tête de l'autre, bon, OK. Puis ils se disent « shalom ». L'un qui dit « shalom », l'autre répond « shalom ». C'est quoi que ça veut dire? C'est que le mot « paix » a trois sens. Le premier sens est un sens eschatologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire achèvement d'un dessein, d'une œuvre, d'un plan, d'une opération. Et ça se dit même par rapport aux choses. Par exemple, un juif, quand il demande à un autre si sa maison est terminée, si tout est fait, s'il peut rentrer dedans, il va lui demander si elle est en paix. Et si l'autre répond qu'elle est en paix, ça veut dire que la maison est terminée.
Alors, il va comme personnifier des choses. Si la maison est en paix, c'est qu'on lui donne une âme presque.
Oui, si on veut, elle est pour être habitée par quelqu'un, mais ça s'emploie quand même strictement au niveau des choses. Une table est en paix si elle finit d'être construite. Le mot paix veut ainsi dire l'achèvement d'un dessin, d'une œuvre, d'un projet. C'est pour ça que Dieu, qui ayant fait un projet du monde, l'a commencé un jour et va le terminer un jour. Et quand il sera terminé, ça sera la paix. Maintenant, ce mot « paix-là » aussi se dit par rapport à celui qui en est la source. Alors, le Christ, qui est la source de tout, c'est le prince de la paix. C'est-à-dire qu'en lui contient toute chose. En lui se trouve toute chose, comme à l'état de dessein, comme à l'état de projet et comme à l'état d'accomplissement. Ça, c'est le sens eschatologique et personnel du mot « paix » dans sa source et dans son terme. Donc, le Christ mystique total, quand il sera accompli, tout sera en paix. Donc, le premier sens du mot « paix », c'est « achèvement ». Le deuxième sens du mot « paix », c'est « devenir »,« développement ». Alors, le mot « devenir » veut dire que actuellement quelque chose est en train de se faire. C'est ce projet-là qui est en train de se faire. Alors, un jour, il sera arrivé à terme, mais actuellement, il ne l'est pas. Il est en processus. Alors, ça, c'est le deuxième sens du mot « paix ». Et le troisième sens du mot « paix », c'est d'être en état de paix, c'est-à-dire de vivre cet état-là du devenir d'une façon consciente. Et c'est là le sens profond du mot « paix » chez les Juifs quand ils se saluent. Au fond, quand un Juif dit à un autre « shalom », ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Toi, là, en tant que Juif, en tant que croyant en Dieu, qui est avec toi dans ton projet puis dans le sien, est-ce que tu es en train actuellement aujourd'hui de croire que ce projet-là est encore en train de se réaliser? Alors, ça veut dire la foi.
ici Aline Lesage, je suis en compagnie de Raymond Truchon. Nous parlons ce soir de la septième béatitude, la béatitude des artisans de paix. Vous rapportez, Monsieur Truchon, une citation qui dit que, concrètement, la paix, elle est bénédiction, repos, gloire, richesse, salut, vie. Et plus loin, il est dit que, loin d'être simplement une absence de guerre, la paix, elle est plénitude de bonheur. Il me semble qu'on a parlé des cœurs purs et c'est tout ça aussi qu'on disait au sujet des cœurs purs, que le cœur pur possède lui aussi le bonheur en plénitude. Au fond, j'aimerais que vous me convainquiez que tout cela, c'est pas du pareil au même, qu'il existe une vraie différence entre chacune des béatitudes.
Je suis très content que vous fassiez une référence au cœur pur, puisqu'il y a un lien direct. Alors, ça va m'aider d'ailleurs à continuer l'exposé ou, si vous voulez, l'échange qu'on a là-dessus. Alors, c'est évident que la paix, c'est le travail qu'on fait avec d'autres et sur d'autres, et surtout avec d'autres et pour d'autres. Mais ça nécessite le cœur pur. Donc, au fond, le cœur pur, c'est une disposition pour soi-même, pour être en paix jusqu'à un certain point, pour pouvoir travailler en paix aussi et à la paix avec d'autres. Donc, la différence profonde, une des différences profondes, en tout cas, entre les deux béatitudes, c'est que les cœurs purs, au fond, c'est d'abord de soi-même qu'il s'agit, tandis que la paix, c'est d'abord des autres qu'il s'agit, même si, évidemment, on travaille sur soi aussi. Alors, voilà, il y a un lien direct entre les deux, et c'est comme avec la miséricorde, ce lien est essentiel, parce que si nous perdons nous-mêmes la paix, si nous perdons l'espérance, si nous perdons la foi dans notre devenir, d'abord personnel et ensuite collectif, comment voulez-vous qu'on y travaille d'une façon efficace et valable? Alors, c'est évident que c'est lié. Maintenant, pour continuer notre affaire, nous disions dans l'Ancien Testament que quand un Juif salue un autre Juif, il est en train de lui demander « Est-ce que tu es en train de réussir ta vie selon le plan de Dieu? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est avec toi pour la réussir et l'achever, c'est-à-dire la rendre éterne? »
Est-ce qu'on est toujours dans l'Ancien Testament?
Toujours dans l'Ancien Testament. Okay. Alors l'autre répond « Shalom », ça veut dire « Moi, oui, j'y crois, et toi aussi, donc Shalom, oui, moi aussi j'y crois. » Et là, ça forme déjà une communauté, c'est ce qu'on appellera dans l'Ancien Testament une église. Dans le Nouveau Testament, une église, puisque déjà deux ensemble se reportent à la parole de Dieu pour la vivre et lui faire porter des fruits. Dans le Nouveau Testament, il y a un pas énorme à franchir, et c'est le suivant, c'est que le Christ, lui-même, dans sa personne, en devenant homme, en s'incarnant, comme fils de Dieu, va reprendre à son compte non seulement l'histoire d'Israël comme témoin du salut du monde, mais toute l'histoire du monde. Et il va la reprendre en lui-même pour la rendre à terme, l'achever. Et quand le Christ sur la croix dit « Tout est consommé », il a fait ce qu'il avait à faire pour le salut de l'humanité, qu'il va nous offrir, évidemment, parce qu'il ne peut pas nous forcer, puisque c'est une histoire d'amour, mais qui va nous offrir à y entrer dedans et à y participer et à y collaborer. Donc, dans le Christ, la paix, elle est accomplie. Ce qui veut dire que quand je vais...
Il a mené sa propre paix.
Il a mené sa propre paix, c'est-à-dire que c'est la nôtre qu'il a réalisée. Parce que le Christ est venu pour nous. Parce que le Christ, dans sa seigneurie, évidemment, en tant que Verbe, possédait tout. Il est Dieu. Mais il a voulu que dans la nature humaine soient déposées pour nous toutes les richesses de Dieu, qu'on appelle mort-résurrection, sa seigneurie. Et justement, la paix, c'est la réalisation du plan de Dieu. Alors, le plan de Dieu sur l'homme. Et ainsi, nous faisons la gloire de Dieu, c'est-à-dire nous sommes la gloire de Dieu à ce moment-là. Parce que la gloire de Dieu, c'est la réalisation de l'homme et de tout l'univers. Mais c'est déjà, dans le Nouveau Testament, accompli dans le Christ. Quand je vais communier, quand nous allons communier, nous allons participer à cette paix totale déjà réalisée dans le Christ, que le Christ nous offre à méditer et à connaître par ses mystères, et en visant les mystères du Christ, en les méditant et en les découvrant en nous-mêmes, nous nous incorporons à lui pour construire le royaume. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est déjà accompli dans le Christ, c'est en train de devenir et de s'accomplir en nous. Alors, puisque nous sommes à parler de l'Eucharistie, déjà accompli, nous pouvons célébrer déjà notre réalisation et y travailler. Alors, dans le Nouveau Testament, la grosse différence, c'est que c'est déjà accompli. Dans le Nouveau Testament, nous sommes encore appelés à la foi, mais cette foi-là, c'est que le salut est déjà accompli dans le Christ et que nous sommes appelés à y travailler.
Vous affirmez, comme pour la justice, qu'il y a une différence importante entre la paix intérieure et la paix extérieure. Je suppose qu'elles sont également corrélatives, ces deux paix-là.
Oui, comme pour la justice intérieure, la justice extérieure, la paix intérieure, c'est l'amour dans lequel on est embarqué, ou si vous voulez, dans lequel on est vraiment entré, et d'une façon stable. Alors, je sais que l'amour est toujours un processus, mais déjà, la relation étant stable, nous pouvons demeurer en paix. Et quand le Christ nous dira, il dira à ses disciples, évidemment, en tant que juif, il salue ses disciples comme les autres juifs, mais quand il leur dira, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne, mais comme moi je vous la donne, demeurez dans ma paix, ça veut dire demeurez dans le salut, soyez joyeux, vous êtes dans le salut, vous êtes dans le royaume de Dieu, travaillez, croyez-y et collaborez-y. Nous devons y collaborer.
Est-ce que la paix intérieure mène nécessairement à la paix extérieure? Est-ce qu'il y a un processus automatique ou est-ce qu'il y a des conditions?
Ouais, c'est pas un processus automatique parce que la paix extérieure, c'est l'aspect social de toute notre vie. Mais tout l'extérieur est toujours vu comme l'extériorisation de notre intériorité. Donc, celui qui est en paix intérieure, il rayonne la paix, il appelle à la paix et il est là à y travailler.
Il est automatique, donc.
C'est pas automatique parce qu'il faut que la liberté de l'autre l'accepte, que la liberté de l'autre y collabore, que nous soyons ensemble. Parce que la paix est non seulement le résultat d'un processus personnel, mais un processus social.
Monsieur Truchon, vous voulez nous parler de la paix au sens actuel.
Oui, j'avais annoncé ça la semaine passée, que justement, cette béatitude-là peut-être nous interpelle davantage aujourd'hui. On n'a peut-être jamais, comme aujourd'hui, parlé de paix. Pourquoi ça? Ben, c'est aujourd'hui, nous vivons une mondialisation. C'est-à-dire, tous les problèmes de chacun sont comme reportés dans un ensemble, et non seulement national, mais mondial. Alors, nous vivons une mondialisation des problèmes et aussi une mondialisation des processus de solution. Alors, on parle de la faim dans le monde. On veut, pour une fois, me semble que c'est nouveau qu'on veuille réduire, détruire la faim dans le monde au niveau de toute la planète. Ben, c'est que, avec la bombe atomique, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu peur, pour une fois, tous ensemble, d'être détruits. Et d'ailleurs, il y en a qui y pensent encore que ça pourrait être dangereux. Donc, nous vivons une mondialisation d'abord de la peur. Ensuite, une mondialisation de l'interrelation de nos liens économiques. Comme jamais, nous voyons très bien que c'est chacun des pays qui doit y collaborer, sinon ça marchera pas. Et que chacun aussi doit favoriser le développement de chacun. Or, justement, le mot « paix » veut dire « développement ». Et à Québec, nous avons une institution qui s'appelle « Développement et paix » et qui a été instaurée par Rome, par Paul VI. et qui a été confié au cardinal, au feu cardinal Roy. D'ailleurs, Paul VI pensait peut-être en faire un pape. Et c'est peut-être la seule commission romaine qui est dans un diocèse en dehors de Rome. Et justement, c'est dans le diocèse de Québec. Alors, c'est assez intéressant de voir que nous avons peut-être une mission mondiale, nous autres, au niveau de la paix dans le monde. Et si Mulroney avait été demandé pour être secrétaire des États-Unis, tout ça, c'est qu'ils sont quand même des signes, veut qu'on veuille ou non, que le Canada, que le Québec peut avoir une fonction particulière. Maintenant, pourquoi avons mis développement et paix, puisque paix veut dire développement, donc c'est comme un pléonasme. Ben, je crois que c'est parce qu'on savait pas trop ce que voulait dire en hébreu le mot paix, alors on a associé au mot paix le mot développement. Comme là, on sait que c'est clair maintenant que travailler à la paix dans le monde, c'est travailler au développement des gens, c'est-à-dire de chaque personne et de chaque peuple, selon sa richesse propre et selon son plein épanouissement.
Ils sont presque synonymes, alors.
Ils sont absolument synonymes, c'est une répétition. Le mot paix veut dire développement, sauf que dans son premier sens eschatologique, il veut dire achèvement de ce développement. Donc, nous avons comme tâche de travailler à la réalisation du dessein de Dieu, et le mot paix veut justement dire devenir de ce dessein et travailler à ce dessein de Dieu. Donc, la paix, ça représente tout le problème, tout le mystère de Dieu et de l'homme, toute la réalisation du dessein de Dieu. Donc, c'est le dessein au complet. Et on parle de biens messianiques, au fond, ce sont les biens de la paix. Donc, la paix, c'est l'achèvement. Et quand le Christ, on l'appelle le prince de la paix, ça veut dire c'est l'achèvement, l'alpha et l'oméga, Éphésiens 1, 3 à 7, ou Éphésiens 1, 10. C'est la récapitulation complète de tout le dessein de Dieu, de mon histoire personnelle et sociale, et de celle de tout le monde. Voilà ce que veut dire la réussite du dessein de Dieu, c'est-à-dire le mot paix.
Vous écrivez que pour se réaliser, la paix se vit dans un combat, une tension, des oppositions, des luttes. Est-ce que c'est pas une contradiction que d'affirmer oui. que la paix se vit dans des tensions et des luttes?
Bon, c'est évident que si on n'est pas encore achevé dans notre terme, nous avons encore des luttes à faire et surtout contre ce qui s'y oppose à ce dessin-là. Mais justement, si on voulait une figure de notre temps qui montre bien l'Évangile à l'œuvre, à mon avis, c'est justement les casques bleus. C'est-à-dire des soldats qui sont armés, qui sont capables de se défendre, et qui sont là surtout pour la paix, c'est-à-dire pour que les gens se réconcilient. Alors, ils sont non-violents, ils ne font pas œuvre de violence, ils sont là pour réunir les gens, pour essayer qu'ils s'entendent, donc ils font une œuvre de paix. Alors, aujourd'hui, la paix est peut-être cette paix qui est recherchée par le monde entier, est probablement le point d'appui de l'Évangile du monde qui est le plus à date et qui nous fait voir le plus le plan de Dieu. Un seul père, tous des frères, un seul dessein, tous reliés ensemble sur une petite planète bleue et progressivement dans des moyens non violents. Et justement, l'ONU veut mettre sur pied, et a mis déjà d'ailleurs sur pied jusqu'à un certain point, une armée non violente qui voudrait aller partout dans le monde détruire les conflits et faire en sorte que les gens se construisent plutôt qu'ils se détruisent.
Je vous écoute et je ne peux pas faire autrement que de penser à la paix dont vous parlez, c'est la paix sociale, c'est la paix dans le monde. Est-ce que ce serait un symbole, un signe que la paix intérieure, elle s'actualise de plus en plus chez les individus?
Bien, c'est justement, il y a une corrélation à peu près nécessaire, et selon la Bible, elle est nécessaire, elle est incontournable. Entre la paix extérieure et la paix intérieure. Mais la Bible a toujours dit qu'il faut d'abord une conversion intérieure. Parce que même si on change de structure, si les personnes ne changent pas intérieurement, l'autre structure ne sera pas meilleure. Mais étant donné que maintenant nous sommes tous concernés quasiment à mort, à vouloir vivre en paix et à essayer d'y parvenir, ben ça favorise un peu la conversion intérieure, mais ça l'oblige pas. C'est un peu comme moi, ça, qui essayais d'arrêter de fumer pendant 20 ans. Tous les matins, je recommençais pour essayer d'arrêter de fumer. Puis le soir, je recommençais à fumer tout le temps.
Mais la préoccupation était toujours là.
Oui, mais il y avait une violence, j'étais pas capable. Alors, à un moment donné, j'ai fait un infarctus. Alors, j'ai reçu un coup de pied assez fort que là, j'ai arrêté de fumer. Ben, autrement dit, ce coup de pied-là, il est venu de l'extérieur, il est venu d'un médecin. Il m'a pas obligé à arrêter. Mais là, c'était tellement fort que je me suis dit, il faut absolument que j'arrête. C'est pour ça que notre dernier professeur, c'est probablement la douleur. Quand ça fait trop mal, on se dit, ça a plus de bon sens, il faut que j'arrête. Alors peut-être que le mouvement global de la recherche de la paix dans le monde va nécessiter chez les gens une foi personnelle et ensuite une conversion personnelle, pas nécessiter, mais en tout cas fortement travailler une paix personnelle, de telle sorte que Isaïe 6, 9 et 10 peut se réaliser un jour. C'est que Dieu nous court partout pour nous convertir, pour que nous vivions bien, non seulement intérieurement, mais extérieurement, mais surtout pas rien qu'extérieurement, parce qu'alors en dedans, ça peut être l'enfer. C'est un peu comme la fin du monde, ça. Quand le paradis va être installé sur terre, celui dont le cœur n'est pas heureux, ben, il sera pas heureux. C'est comme quelqu'un qui est à un voyage de noces, puis au fond, il y a une phase d'enterrement, il est pas heureux.
Alors, il y a une très, très grande corrélation entre les deux, entre la paix intérieure, la paix sociale, la paix extérieure et toutes les paix.
Indissociable.
Vous affirmez encore que la paix, selon la Bible, dans son sens le plus fort, c'est d'être à terme. Terminé. Il me semble que j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps au sujet d'une autre béatitude, cette même notion d'être à terme, d'être mûr. Est-ce que je me trompe?
Oui, quelle autre béatitude?
Je ne me rappelle plus laquelle, mais je suis sûre qu'on avait employé l'expression d'être à terme.
Peut-être faim et soif de justice, parce que justement, la faim et soif d'être à terme. Alors, le grand désir de notre vie, c'est d'être accompli. Pourquoi serons-nous heureux quand nous serons accomplis? C'est parce que chaque puissance aura rencontré son objet et unie à un autre, nous rencontrerons l'objet ultime de notre vie qui est l'être aimé et finalement Dieu lui-même. Alors, c'est certain que la paix, là, pour être profonde et complète, il nous faut une relation avec Dieu.
Monsieur Truchon, encore une fois, c'est tout le temps que nous avons. Nous allons donc poursuivre la semaine prochaine avec vos commentaires sur la béatitude des artisans de paix. Cette fois, je pense qu'on pourra aborder les moyens, sans doute, et peut-être les fruits également.